Ça me semble intéressant de vous présenter cette édition dans le cadre pas seulement de l'histoire iconographique du Roland Fourieux, mais aussi de la présence du Roland Fourieux en France et l'importance qui a quand même revêtu ces textes pour la littérature française. Donc on verra que la présence d'un livre italien donc dans la base de Caen, et pas seulement de cette édition du Roland Fourieux, mais aussi de trois autres qui l'accompagne, est important aussi pour souligner la présence de très tôt, pas seulement la présence de livres italiens en France, mais aussi l'activité, alors je parle de ce que je connais mieux, donc l'activité de plusieurs éditeurs lyonnais qui, alors, à la Renaissance, pour faire bref, disons que parler du livre italien de la Renaissance et parler du livre vénitien, parler du livre de la Renaissance française, c'est surtout parler d'un côté du livre parisien, d'autre côté surtout du livre lyonnais. Et c'est intéressant parce que ces deux pôles, ces deux industries du livre, au moins jusqu'à une bonne moitié du XVIe siècle, ils se partagent vraiment, réellement, le commerce européen du livre. Donc on verra comme ces éditions, soit les éditions italiennes, soit les éditions françaises d'auteurs italiens, se partagent vraiment réellement le marché du livre en vulgaire, en italien et en français dans cette époque. Donc, après ça, je voudrais vous présenter cette édition parce qu'elle est particulière dans l'histoire iconographique du Roland Fourieux et vous aurez une présentation bien plus riche des éditions qui l'ont précédé par les collègues de Pise avec leur magnifique base. Et aussi, je voulais vous présenter quelques exemples de l'importance qu'ils ont, ces éditions illustrées, aussi dans la diffusion des modèles iconographiques sur autres supports, dans les arts majeurs, comme les arts décoratifs, on verra, et mineurs. Le Roland Fourieux rentre très tôt dans les relations Italie-France, donc on sait bien que François Ier a reçu un hommage à l'édition du roman imprimé à Ferrare par Mazzocchi en 1516. Et aussi, on sait que Giolito, donc le grand imprimeur vénitien de la Renaissance, dédia l'édition 1542 au dauphin. Et plus particulièrement, le Roland Fourieux est vraiment une plaque tournante des relations entre la France et Ferrare. On sait bien qu'en 1527, donc patrie de l'Arioste, en 1527, René de France se marie avec Hercule d'Est, s'installe à Ferrare avec toute sa cour, et donc commence ces relations Ferrare-France qui seront très riches pour la suite. En fait, on sait qu'en France, la France va accueillir plusieurs membres de la famille d'Est, dont Hippolyte, archevêque de Lyon, défini par Balmas l'esprit tutélaire des rapports culturels franco-ferrarais au XVIe siècle. Donc, on va voir comme Hippolyte d'Est sera vraiment le personnage clé pour la traduction du Roland Fourieux en français. Hippolyte, à qui sera dédiée la première traduction française du roman, qui verra la lumière en 1543 avant la publication du roman en italien en France. Donc cet infranciosamento, comme on définit, de la cour de Ferrare a évidemment une valeur politique et culturelle en même temps. Souligner le lien Est-France, François Ier surtout, et c'est relié à un imaginaire qui était déjà très fort à Ferrare, parce que si on pense à la décoration qui suivait les thèmes de Paladine Gaulois, etc. Donc, un lien qui était déjà présent et que Laurent Fourieux donc trouve un terrain fertile pour s'installer. Depuis la Princeps, le Roland Fourieux connaît une fortune éditoriale énorme. Donc, on sait qu'on a 150 éditions au cours du XVIe siècle. La plupart imprimés à Venise, donc entre 1524 et 1590, on a au moins une nouvelle édition chaque année, souvent de 3 à 5 éditions par an, pour arriver à l'année exceptionnelle, cette crue du 1556, La date justement de la princeps de Valgrisi qui on va voir ensemble, quand on en sortir bien 8, donc 8 éditions différentes de 8 imprimeurs différents dans la même année, donc Lyon, Venise, en 1556. Sont des chiffres qui vont commencer à diminuer seulement dans les dernières décennies du siècle quand le Roland Fourieux perd un petit peu son intérêt. Pour vous donner un petit peu le cadre de ces relations franco-italiennes dans la production du Fourieux, la première traduction en français parue à Lyon, donc en 1543, celle dédiée à Hippolyte d'Este, par Sulpice Sabon pour Jean Telusson, avec des sens allégoriques sur chasque chant. Prix de l'édition Dolce, donc là on l'a vu avec Marcolini, on l'a vu avec le Boccace, ces liens Venise-Lyon, c'est des liens établis et c'est pas des liens exceptionnels, ce sont des liens vraiment normaux, surtout pour les éditions italiennes, ils ont toujours une origine vénitienne et ils arrivent à Lyon, je dirais, en temps réel. Et ils sont traduits souvent en espagnol aussi. Et donc, toute cette production lyonnaise fait de Lyon vraiment la plaque tournante de la traduction, pas seulement en français ou en espagnol, mais vraiment de la diffusion de la langue italienne en France. Les raisons sont évidemment claires, pas seulement une forte présence italienne à Lyon, mais aussi la présence de la cour, donc surtout de Catherine de Médicis, qui est souvent à Lyon, et donc une présence féminine, d'un public féminin intéressé à la littérature italienne en général, et à Boccace d'un côté, Pétrarque sans doute, mais aussi à l'Arioste, qui était évidemment un texte intéressant, pas seulement pour apprendre l'italien, mais aussi par un public de cour féminin. Donc, on a vu la traduction en français, 1543, et qui réutilise l'essence allégorique de l'édition Giolitto de 42, et puis aider une version en prose qui est éditée par Jean de Goutte. Alors, notre collègue probablement me donnera plus d'informations que moi. Une traduction qui a été déjà attribuée à Jean Martin, seul ou en collaboration avec Denis Sauvage, ou plutôt une collaboration littéraire entre plusieurs auteurs, ça c'est à définir. Et donc, il y a quelqu'un plus compétent que moi dans le public. Grâce à cette édition, les Roland Fourieux peut rentrer dans la catégorie des romans de chevalerie qui sont lus pour les grands publics, donc devient vraiment un texte de consommation, à côté du Roland Lamoureux, comme justement l'atteste l'exemplaire de la bibliothèque municipale de Caen, qui est relié, donc le réserve C257, qui voit relier ensemble le Roland Fourieux traduit en français et le Roland Lamoureux, déjà en français. Donc évidemment, une fruition qui était possible grâce à la traduction française par un public plus large, des publics italianistes qui étaient plutôt disloqués à Paris ou donc à Lyon. L'histoire de la publication française du Fourieux est liée à l'activité, on a vu, de Guillaume Rouillet, qui, en concurrence avec son ex-patron qu'il avait formé à Venise, Gabriele Giolitto, ne publie plusieurs éditions en différents formats. Ça, c'est un petit peu l'intérêt. Rouillet, c'est l'inventeur, entre guillemets, de ces formats en 16, qui est un format typiquement lyonnais, et qui va transformer le Roland Fourieux un petit peu dans ce qui était devenu le Pétrarque, donc des petits bijoux éditoriaux qui on pouvait justement offrir aux femmes, et pratiquement la majeure partie de ces éditions sont dédicacées à des dames lyonnaises, dont la comtesse de Termes, qui devient un petit peu l'exemple principal de ces grandes dames qui lisaient l'italien et s'amusaient en lisant le Fourieux. En 1550, Rouillet, très ouvert, comme je vous disais, au marché espagnol, ne produit une version en espagnol due à Jerónimo de Urrea, traduction ou même édition que Giolitto avait déjà utilisée à Venise. Et commence en 1556-7 la production d'édition en italien. Donc, comme je vous disais, dédiée à des grandes dames, dont Marguerite de Salus Corday, donc Madame de Termes, et décide un petit peu ce succès mondain d'un texte vraiment lu par amusement. Par l'histoire de ces illustrations, donc l'Horlan furieux s'insère aussi dans un moment très intéressant de l'illustration du livre qui voit un petit peu ces dialogues de contrapunto entre l'Italie et la France. Et ça me semble intéressant de commencer un petit peu avec vous cette histoire de la représentation par figure du furieux avec une phrase de Foscolo qui décrivait l'ouvrage d'Arioste en disant « Il enivre la fantaisie, il veut que nous voyons ce qu'il voit ». Palais aérien, fée, l'anneau qui rend invisible celui qui le porte, le cheval ailé, la montée de la lune, et tant de locutions étranges qui, chez d'autres, nous amusent et à la fois nous font éprouver de la compassion pour la crédulité de la foule, tandis que l'Arioste, lui, les montre comme les créations fantastiques appartenant vraiment à la nature. Alors, le roman furieux, par contre, fut illustré relativement tard. La première édition qu'on peut définir comme réellement illustrée date de 25 ans après la princeps de 1516 et ornée seulement des armes de l'Arioste. Donc, pro bonus malum, c'est devise de l'Arioste qui ouvre et encore ouverte à d'interprétation. La raison est parce qu'elle est à voir dans le fait qu'à différence des auteurs classiques et des trois couronnes italiennes, donc de Dante, Pétrarque et Boccace, le Roland Furieux n'a pas de tradition figurative manuscrite, évidemment. Donc, pour les illustrateurs, c'est très difficile de se retrouver devant une matière poétique énorme et de pas avoir des exemples à copier ou quand même d'antécédents. De plus, l'Arioste, vraiment, il avait une matière énorme et la narration est continuellement fragmentée en continu, donc c'était difficile de choisir et de représenter pour des dessinateurs et des xylographes les moments à illustrer. Donc on se perd dans la complexité des histoires parallèles, dans leur dynamisme sans solution de continuité. Malgré ça, l'Arioste, comme on verra, a trouvé toute une série d'artistes qui s'y sont confrontés à ces histoires. La première tentative d'illustrer le Roland furieux, 1526, donc Sisto Libraro à Venise, se déboit divisé en quatre parties qui illustrent chacune un épisode de l'histoire. On peut considérer vraiment comme la première édition illustrée, celle de 1530, Niccolò d'Aristotile da Ferrara, di Lo Zoppino. Donc, 36 petits xylos au commencement de chaque chant qui représentent chacune des épisodes du poème. Et les personnages, comme vous voyez, sont accompagnés par leur nom écrit à côté, souvent en forme abrégée. On sait aussi qu'en 1532, on a la version finale du poème, 46 chants à la place de 40, révisé et corrigé par l'auteur qui mourait l'année suivante. L'édition Ferrare Francesco Rosso da Valenza, 1er octobre 1532, nous montre autre image qui accompagnera l'Arioste pour toute sa vie, le portrait et le cadre de Francesco di Nanto, les deux tirés probablement par des dessins de Titien. Le portrait donc comparera dans presque toutes les éditions suivantes, copié, recopié, inséré dans des cadres de plus en plus riches, on le verra. On arrive à l'édition Giolito 1542. C'est à propos de cette édition que Quondam a un petit peu fondé le profil de Giolito. On sait que l'Aretin, dans une lettre de 1542, remercie Giolito pour l'envoi d'un exemplaire de cette édition, en papier, en touche d'or et avec le taille décorée. et dit de Giolito, qui a fait imprimer l'Arioste piuttosto da principe che da libraio, onde la memoria di sì famoso autore venne molto tenuto, imperò che per voi è pur non ridotto nella propria perfezione, ma illustrato con le eccellenze di quali gli ornamenti di cui è dignissimamente degno. Donc définit l'activité de Giolito avec cette expression qui est devenue un petit peu une synédoque pour l'imprimerie vénitienne de la Renaissance, onde si può dire che fate mercanzia più d'onore che d'utile. Donc ça c'était le titre de l'article un petit peu fondateur de Quondam sur Giolito. Giolito produit 27 éditions du poème et il est le responsable de ce que Javitsch définit comme la canonisation éditoriale du Roland Fourieux à classique moderne. Et ça me semble intéressant de souligner cette canonisation à travers aussi la mise en page du Roland Fourieux de Giolito, parce que c'est reprend exactement la même mise en page que Giolito consacre à une autre classique qui est les Métamorphoses d'Ovide. Donc même visuellement, on a déjà un lien entre la publication des classiques donc d'Ovide et l'Arioste. Comme je vous disais, cette édition 1542 est dédicacée au dauphin. Et Giolito, il décrivait le Roland Fourieux comme une des rares œuvres modernes à avoir joint les niveaux de perfection des ouvrages classiques. Donc, vraiment élu au niveau des Trois Couronnes et des classiques anciens. L'édition de Giolito est soignée par Dolce, qui se présente comme le grand défenseur de l'Arioste contre les accusations de ne pas respecter l'unité d'action. Et donc, le commentaire de Dolce présente l'interprétation exégétique du poème, donc une sorte de parcours obligé à travers les textes de l'Arioste, qui sera réimprimé en édition, libre du texte, plusieurs fois. Donc c'est un petit peu une présentation d'un ouvrage avec un substrat moralisant qui oblige un petit peu le lecteur à voir dans l'Arioste une interprétation ultérieure qui le canalise un petit peu du point de vue de Dolce à travers la matière narrative. On sait que cette édition a été couverte par un privilège qui évidemment protégeait pas le texte de l'Arioste, mais justement tous les ornamenti dont Giolito avait enrichi le texte de l'Arioste, les deux frontispices. Donc déjà Giolito joue sur les deux éditions en quarto et en octavo. Et donc les deux frontispices que vous voyez, c'est donc les deux formats. Et ces magnifiques initiales figurées parlantes, donc chaque initiale correspond dans sa décoration à un personnage mythologique qui a le même nombre de l'initiale. Donc une sorte de, comme vous voyez par exemple pour le Laocoon, L correspond au Laocoon, et ça, c'est pour ça qu'ils sont définis donc des initiales parlantes. Couvrait aussi les petits bois gravés qui commencent cette tradition de condensation de la matière narrative en deux ou plus épisodes dans une seule vignette. Donc je m'attarde pas parce que je pense que vous le verrez mieux dans la base de l'école normale. Et donc commence à donner une sorte de condensation en figure de la matière de l'Arioste selon des épisodes choisis. Ça c'est intéressant parce que dans l'édition Giolito, on commence à choisir des épisodes qui intéressent l'illustrateur et donc à proposer au lecteur une sorte de condensation par figure du récit, mais aussi justement une choix, une sorte de narration alternative par les illustrations de la matière entière, et aussi une sorte de chiffre mnémonique qui aide à la lecture à l'intérieur de la vaste richesse de la narration. Donc, c'est pour la première fois ici, comme on verra bien plus l'édition Valgrisi, que la perspective et la disposition des épisodes dans l'espace nous donnent aussi un sort de fil rouge pour s'orienter au niveau de l'espace et du temps à travers la narration. Le choix de l'illustrateur Giolito est aussi intéressant parce que le parti pris interprétatif est, consacré à la description de tout ce qui est les caractères épiques du roman, beaucoup plus que la matière amoureuse. Il y a une sorte de censure illustrative qui nous montre surtout les batailles et les affrontements des héros, mais beaucoup moins les héroïnes féminines qui pourtant sont si présents dans le roman. Et c'est intéressant de voir, par exemple, pour la planche du premier chant, qui présente au premier plan le duel entre Renaud et Sacripan. Donc le caractère épique s'affirme à la fois par un effet d'échelle et par l'isolement des héros au sein du paysage. Tant qu'au second plan, vous le voyez tout sur la droite du second chevalier, on voit la fuite d'Angélique et illustre bien l'interprétation allégorique qui nous donne Dolce en disant l'ingratitudine delle donne. Donc quand les deux chevaliers s'affrontent, la femme fuit. Après ces sortes de supernova, disons, dans le paysage des éditions illustrées du Furieux, on a toute la tradition lyonnaise qui s'installe, donc Rouillet qui reprend les éditions illustrées de Giolito, donc le premier, en effet, c'est Honora qui publie la première édition italienne avec des bois copié par Rouillet, par Giolito, et puis toutes les séries des éditions de Rouillet qui reprend, même dans l'édition en espagnol, des bois de Giolito. On passe aussi très rapidement sur l'édition Valvasori qui suit l'édition Giolito, où le choix de l'illustration est un petit peu différente. On a un premier plan avec des images de taille plus grande, mais surtout, on propose une narration continue et non plus par épisode. Donc, on a la première tentative de réunir dans les vignettes vraiment le condensé de l'entière narration du Roland Furieux. Et puis, on arrive, donc justement, je vous disais, l'édition de Giolito, ils arrivent vraiment à représenter une source iconographique pour des supports très différents, donc par exemple les Majoliques. Et c'est intéressant de voir comme la production contemporaine à Faenza et à toute la production au centre italien de Majolique est vraiment contemporain à l'illustration du Furieux. Et dans les années, vraiment autour des années 40, il y a une énorme production de figurati, c'est ça comment on les définit, d'assiettes ou de produits à Majolique et en faïence, décorés par des scènes tirées de l'édition Giolito. Et aussi, évidemment, leur utilisation de l'édition Giolito pour l'art majeur, comme on l'a défini. Donc, par exemple, par les fresques de Niccolò dell'Abate en Palazzo Torfanini à Bologne, où là, on voit vraiment l'inverse de choix de l'illustrateur Giolito. C'est plutôt la matière épique qui est mise en second plan et justement cet accueil d'Alcina qui reçoit Ruggero dans son château a mis en premier plan, évidemment, pour des raisons de décoration d'un palais qu'il préférait, évidemment, montrer comme la propriétaire de lieu pouvait faire avec ses invités. Et on arrive donc à l'édition qui m'intéresse le plus, donc l'édition Valgrisi. Donc la base présente une splendide prise de l'objet réel. C'est intéressant parce que Vincenzo Valgrisi, qui est un nom bien italien, en effet c'est l'italianisation d'un nom bien français. Vincenzo Valgrisi, en fait, s'appelait Vincent Vaugry, était lyonnais et s'était installé à Venise dans les années 30, au début des années 30, j'imagine, au milieu des années 30 du XVIe siècle, et devient un petit peu ces maillots de relations France-Italie pour la moitié du XVIe siècle. Donc, l'édition du Roland Fourieux, Pal Valgrisi, est une des éditions qui rend mieux la matière de la narration de l'Arioste. C'est la première édition qui, en fait, essaye de réunir dans une seule planche toute la narration du chant correspondant. Et c'est intéressant parce que ce sera la perspective, en fait, qui nous guide à travers l'espace de la page entière. Donc, on est encore dans la technique xylographique, donc c'est un effort quand même pour produire un bois de ces dimensions avec la description très fine des personnages pour poursuivre la narration. Et donc, à partir de sa Princeps en 56, Valgrisi produit des éditions en octavo sans le cadre et en quarto avec le cadre illustratif de Roland Fourieux condensé complètement en images. Celle qui m'intéresse, c'est souligner le rôle de Valgrisi d'une toute une circulation d'images qui était passée par Lyon, donc vraiment d'une réelle circulation européenne. Et il est responsable de la publication à Venise de la série de la danse macabre d'Holbein qui était passée par Lyon grâce à des éditions crypto-protestants des frères Treschel, et il leur repropose à Venise, donc dans une petite édition qui va lui coûter une longue et très intéressant procès mené par l'Inquisition. Donc quelqu'un qui était vraiment attentif à l'aspect de l'illustration en général, et qui donc s'inscrit dans une production pour moi très intéressante du milieu du XVIe siècle. Donc, on voit que les exemplaires Valgrisi, on a eu des possesseurs aussi très importants. Celui-là, c'est l'exemplaire de la famille du Hannibal Altemps, qui était le commandant des troupes armées, donc de l'armée du pape à l'époque, donc une rélure romaine, celle-ci, mais qui était passée dans les mains d'un grand bibliophile à qui je suis très affectionnée, anglais, et qui l'a, qui a William Beckford, qui est évidemment aussi un grand auteur, qui était un petit peu maniaque pour tout ce qui était édition appartenue à des personnages connus. Donc c'est pour ça qu'il recherchait les rayures et les éditions en main, déjà eues en main par des hommes connus, mais qui est maintenant aux États-Unis, donc au fonds ancien de l'université d'Harvard. Et mais aussi ça, je suis contente d'avoir retrouvé que Malherbe, donc à Caen, ça me semble quand même important de le souvenir, Malherbe lisait le Roland Fourieux sur l'édition Valgrisi comme faisait Peiresc d'ailleurs, donc les deux copains lisaient le Roland Fourieux sur une édition Valgrisi tardive. La nouveauté du plan des illustrations est soulignée tout de suite par Ruscelli, qui est l'éditeur du texte. Alors Ruscelli Dolce, c'est une histoire à ne pas en finir, les deux ennemis qui se becquent quand l'occasion plus se présente. Si Dolce est un grand défenseur de Arioste, Ruscelli c'est un grand obsédé par l'orthographe en général, donc il fait tout un paratexte pour lire l'orthographie et vraiment la syntaxe dans le texte de l'Arioste, et évidemment enrichit la publication du Roland Fourieux, de toutes ces aides à la compréhension du texte aussi au niveau grammatical. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de lo specchio di stampa, de la mise en page de l'illustration, donc on voit bien qu'il y a toujours ces lettrines parlantes qui ont été reprises par Giolito, un cadre pour les arguments, et puis évidemment cette nouveauté de la pleine page pour les illustrations. Alors là, je voudrais juste vous présenter quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans l'étude des différents exemplaires. Par exemple, on sait que dans l'exemplaire de 1562, le bois était recopié, on a produit un nouveau bois pour le champ 2 parce qu'apparemment le bois original était perdu, mais on le retrouve. Alors donc là, c'est, vous voyez, il y a des différences minimes entre l'un et l'autre, mais c'est deux bois différents. Et en plus, c'est intéressant parce qu'en 1556, on retrouve le bois original et donc on le réintègre dans l'impression. Donc on a une sorte de gap entre en 1560 et 62. Donc on perd le bois, on le retrouve, on le réinsère. Et puis, à partir de 1562, à nouveau, il y a une intervention sur les bois pour essayer de le rendre plus compréhensible. Alors, était très dense le dessin xylographique. On voit que dans l'image de droite, il y a plusieurs ombres qui ont été enlevées. Donc, on les voit là aussi. Donc, on le voit plutôt clairement. On a essayé de rendre plus légère la xylographie en enlevant beaucoup de noir. Et on voit bien qu'en fait, on arrive à obtenir des images aussi très contrastées, donc une utilisation du noir très présent. Valgrisi accepte donc cette nouvelle idée de rendre le Roland Fourieux petit. Et donc, il ne produit aussi des petites éditions en 24. Donc, c'est vraiment de tout petits bijoux en deux volumes, parce que évidemment, un volume seul prenait trop de, pour la rayure était trop difficile. Donc, vous voyez le portrait de l'Arioste réinséré et comme sont condensées les petites images en petits. Je voudrais juste terminer avec la présence de et ça me ramène justement à citer cette premier recueil d'essais très important parce que ça existait rien d'égal où Dorlozdai avait justement souligné la présence de l'utilisation de la carte géographique pour ce type d'illustration, une présence intéressante parce qu'on sait bien qu'Arioste apparemment avait écrit son roman en s'aidant avec des mappes à monde et des cartes et des plans, et donc l'idée de faire d'aider le lecteur à se retrouver dans l'espace. Alors évidemment, le point de vue, c'est un point de vue déjà intéressant, c'est le point de vue de l'hippogriffe, donc vue d'en haut, donc on a dans les yeux la vue de Venise, un petit peu de Jacopo de Barbari, c'est un petit peu le même principe, on le voit un petit peu d'un sort d'avion intellitteram, et donc l'introduction de vue à la cavalière, comme on dit, ou de vraiment d'extraits de cartes géographiques qui démontre la relation très étroite aussi de Ruscelli avec sa traduction de la géographie de Ptolémée. Donc Ruscelli, au même moment qui édite le Roland Fourieux, traduit du grec la géographie de Ptolémée, et évidemment c'est une édition Valgrisi, et Valgrisi avait commandé la production de cartes géographiques, évidemment un petit peu attardées parce que c'est encore la géographie de Ptolémée, qui sont utilisées pour donner un petit peu l'image des déplacements des héros ariostesques sur le plan géographique. Donc, comme vous voyez, par exemple, le voyage de rodomontes par le sud de la France au des Hérauts vers le sud d'Italie sont représentés de nord au sud, donc avec le plan géographique orienté nord-sud pour donner le différents déplacements, et donc on voit bien les petits détails des cartes géographiques. Et donc là par exemple on voit une vue de Paris. Là aussi, le parcours dans la Provence vers Aigues-Mortes, donc on voit Lyon, vient Valence, etc. Et là, on voit l'Italie à tête à l'envers. Et voilà, on voit bien que les cartes géographiques du Ptolémée retournent. Donc, je voulais juste terminer sur l'attribution de ces bois qui ont été attribués dans leurs histoires, évidemment pour créer un sort de lien, faire arrêt à Docedos. Il y a un problème vraiment biographique, c'est-à-dire que Docedos était mort avant de l'édition, donc avant 20 ans avant, donc c'était quand même un peu tiré par les cheveux. On a essayé avec son frère, donc le second Docedos. Là aussi, il faut vraiment se rendre, c'est pas vraiment lui. On a essayé avec un DB interprété comme Donato Bertelli, géographe. Le problème, c'est que DB, c'est pas DB, c'est DA, et c'est le duc d'Albe. Et c'est une vraiment les lettres pour essayer de définir le personnage qui accompagne toutes les illustrations. Et en fait, moi, je préfère voir cet illustrateur dans un cadre vraiment de production vénitienne qui commence dans les années 30 avec toutes des illustrations, par exemple, de Marcolini, plusieurs. Et je pense qu'en fait, c'est le même atelier qui a illustré le Dante dont on a parlé et qui a servi aussi à Giolito pour illustrer le Décameron qui va en France et sera recopié par Rouillet, et les Trasformazioni toujours de Dolce, mais aussi le même illustrateur, donc là c'est encore Giolito, le même illustrateur, alors ça c'est une Bible, bon ça c'est des autres exemples que j'avais mis, mais c'était le même illustrateur de Boccace Valgrisi. Alors ça, c'est ça un exemplaire aussi exceptionnel de la Houghton de Harvard, qui donc libro proibito in prima classe, le Boccace, qu'ils ont le même style hyper décoratif, un peu pas trop loin de ce qui est la production Bellifontaine, donc de Fontainebleau à la même époque, cette sorte de horror vacui décorative qui veut remplir tout. Et puis je voulais juste vous montrer quelque chose de très amusant, qui est une flaque à poudre qui a été décorée avec une gravure tirée par l'édition de Valgrisi, donc c'est apparemment un travail italien qui est maintenant au Metropolitan Museum. Donc cette sorte de utilisation de ces gravures pour des décorations tout à fait intéressantes. Et donc la richesse de la base du projet normand nous permet aussi de suivre, mais ça ce sera peut-être pour une autre fois, la suite de cette idée d'utiliser la pleine page pour les illustrations. Mais là on change vraiment de technique, on arrive à l'édition de Franceschi en calcographie, donc en taille douce, pour laquelle je vais me consacrer à l'étude de cette édition, parce que on a retrouvé les dessins préparatoires qui sont de Girolamo Porro, qui sont à la Fondation Bodmer à Genève. Donc c'est vraiment très très rare d'avoir retrouvé des dessins préparatoires pour l'illustration. Merci beaucoup.